bonjour à tous. Alors, ce matin, on va parler des leçons de la tempête. Et on va faire une lecture tout de suite dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Une histoire, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Au verset 35 à 41, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur le rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et dit un grand calme. Puis il leur dit, « Faites-vous si craintif. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et il se disait les uns aux autres, « Qui est donc cet homme, même le vent et la mer, lui obéissent ?» Le passage fait suite à un temps où Jésus a enseigné les foules depuis le bord de la mer. Et alors que le soir arrive, ce dernier va inviter ses disciples à passer de l'autre côté du lac pour pouvoir prendre du repos. L'histoire va nous révéler que ce voyage ne va finalement pas être de tout repos, mais un temps nouveau d'apprentissage, un temps nouveau de leçon. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Le premier point, Jésus peut
nous conduire
dans la tempête. Et on relit cette histoire. Ce jour-là, le soir venu, Jésus a dit pensons sur notre rive. Après avoir envoyé la foule, il l'emmena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'ils se remplissaient déjà. Savez-vous que ce lac est entouré de montagnes et qu'il se situe 200 000 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ce genre de tempête se produisait souvent à cause du courant descendant qui vient des hauteurs situées à l'ouest du lac de Tibériade. Et le théologien John MacArthur dit que cette tempête est un orage si violent qu'il avait les caractéristiques d'un ouragan. En effet, le mot laelaps qui est employé ici nous parle de tourbillon de vent. Et de la même manière que cette tempête était courante sur ce lac, il est courant que nos vies soient frappées par des tempêtes, que nos vies soient prises dans des tourbillons. Alors que, comme les disciples de Jésus, nous avons besoin de repos, c'est une nouvelle épreuve qui s'en va. Chacun d'entre nous a volontiers. Nous serons confrontés à des tempêtes, à des situations qui peuvent être complètement déstabilisantes et où on a l'impression de ne plus toucher terre. Et à l'image de cette tempête qui a créé de fortes vagues, à tel point que la barque se remplissait d'eau, il arrive que des situations difficiles de nos vies commencent également à submerger nos cœurs. Vous savez, un navire en pleine mer ne peut affronter la tempête que tant que les vagues ne pénètrent pas à l'intérieur. Mais une fois que les vagues sont dans le bateau, la situation devient sans espoir. Et je me pose la question ce matin, qu'est-ce qui semble prendre de l'eau dans ta vie? Est-ce que ça va être une situation de divorce? Est-ce que c'est peut-être un décès, une maladie, un échec professionnel, un échec relationnel? La liste, elle peut être bien longue de toutes sortes de choses qui peuvent venir nous submerger. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que c'est Jésus lui-même qui conduit les disciples à se retrouver sur ce lac. Dans son omniscience, c'est-à-dire le fait que Jésus est fait tout, c'est-à-dire que Jésus est pleinement Dieu, mais en même temps pleinement homme, il savait que cette tempête allait se présenter. Et il savait où il emmenait ses disciples. Ça nous montre la souveraineté de Jésus sur les circonstances qui peuvent s'abattre dans nos vies. Et je vais profiter de cela pour faire une petite parenthèse au sujet de la maladie ce matin. Nous sommes tous frappés par la maladie, que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un de nos proches. On est tous affectés par les souffrances que les uns et les autres peuvent vivre. Et lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a confiance en Jésus et que la maladie commence à frapper et commence à emporter peut-être des fois quelqu'un, un proche, ça peut commencer à venir ébranler nos convictions et nos croyances sur le sujet. Et je crois qu'il est important de se rappeler que Dieu est souverain en toutes choses. livre de Job, au verset 14-5, dans la source de nous dit plus que tu as fixé le nombre de tes jours et que toi tu connais le nombre de tes ans, puisque tu as fixé le terme de celui qui ne franchira pas. Je fais cette parenthèse parce que lorsque la maladie frappe, que ce qui arrive, surtout dans mon milieu où on croit que Dieu intervient encore miraculeusement, on a une certaine tendance à chercher des coupables. Soit nous n'avons pas assez prié, alors la mort de l'autre devient notre faute. Soit il y a des péchés qu'on fait dans la vie de la personne, alors on dit que c'est un jugement de Dieu. Soit on a manqué de puissance, donc on n'a pas bien exercé nos dons. C'est toutes sortes de réflexions qui peuvent venir. Et si la Bible nous dit que la souffrance en général est bel et bien le résultat du péché humain, l'homme qui a voulu se faire maître de sa propre vie, cela ne signifie pas que les souffrances sont toujours le résultat de péchés précis. Et il y a tout un courant théologique qui circule en ce moment, qui nie le fait, qui ne reconnaît pas le fait que Dieu soit au contrôle derrière les maladies et que ce n'est pas simplement qu'une œuvre de Satan. Alors s'il est vrai que Dieu n'est pas l'auteur du mal, qu'il n'est pas l'auteur de la souffrance, le livre de Job nous révèle que Dieu permet à Satan d'agir en fixant des limites. Satan ne peut rien faire au-delà des limites qu'il Dieu fixe. On va lire deux versets dans Job, le verset 12 du chapitre 1. On nous dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Ici, on voit que Job a perdu dans l'histoire des troupeaux, des serviteurs et même ses enfants. Ensuite, au chapitre 2, verset 6, il y a une nouvelle rencontre entre Satan et Dieu. Et le texte dit, l'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. On nous parle de Job. Seulement, épargne. Ici, nous voyons que Job est frappé dans son corps avec des ulcères de la tête aux pieds. Il est important de ne pas faire de commentaires où ça ne sert à rien de venir près de ceux qui souffrent de venir faire des commentaires pour chercher à trouver des raisons. Les amis de Job ont essayé de trouver l'origine de ce qui lui arrivait. Pourquoi ils ont fait ça? On en a déjà parlé. Mais pour se rassurer eux-mêmes. Pour se dire, oui, ce qui lui arrive, c'est normal parce qu'il a fait ça. Ça veut dire que moi, je suis intouchable. C'est juste pour essayer de se rassurer, de se dire, non, en moi, ça ne peut pas arriver. Les disciples de Jésus ont dit la même chose. En cherchant l'origine de la cécité de l'homme, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, Jésus leur répondant que cette maladie était là pour manifester la gloire de Dieu. La Bible nous invite à prier. La Bible nous invite à nous attendre à celui qui guérit, à celui qui restaure et à celui qui délivre. Mais elle nous sensibilise sur notre façon de le faire. Et je vous redonne une citation que je vous avais donnée déjà l'année dernière de William Menzies et Stanley Horton, qui sont des théologiens de l'Assemblée de Dieu américaine. Et ils nous disent qu'il est également important de voir que personne dans le Nouveau Testament ne revendique la guérison. Les gens venaient à Jésus lui demandant de les guérir. Ils ne considéraient pas la guérison comme un droit, mais comme un privilège qui leur serait accordé par grâce. Par grâce. Vous savez, prier avec foi, ce n'est pas la méthode courte. Ou à force de proclamer que Dieu guérit, alors il est obligé de le guérir. Ce n'est pas sortir un verset en contexte de la Bible, dire « Ah ben oui, Jésus, il a guéri la tête, donc je prends ça pour moi et je suis guéri. » Par contre, Dieu peut utiliser un texte de la parole pour parler à nos cœurs et nous donner une promesse qu'il va nous guérir. Mais ce n'est pas proclamer la foi dans la foi et la force de dire les choses, alors ça va se passer. La foi, c'est faire confiance à Dieu pour la façon dont il dirige nos vies, dans la façon dont il dirige nos vies. Même si cela va à l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et cela ne s'oppose pas à solliciter son intervention, mais en s'en remettant à sa décision. Nous pouvons solliciter l'intervention de Jésus dans nos situations, mais sans en lui laissant la décision finale. Regardez ce que Jésus a fait à Gethsémané, quand il a prié.
Il a demandé à Dieu de l'épargner de ce qu'elle explique à la croix. Mais il finit sa phrase en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Revenons à notre texte de Marc. Ce que nous voyons ici, c'est que ce n'est pas pour les envoyer à la mort que Jésus a permis qu'ils passent par cette tempête, mais bien pour leur apprendre quelque chose. Timothy Keller, dans son livre sur la souffrance, il décrit notre monde matérialiste et il dit, en parlant de ce monde matérialiste, il dit le monde physique est la seule chose pour le monde matérialiste, le monde physique est la seule chose qui existe. Le but de la vie est donc d'avoir la liberté de choisir la vie qui nous rend le plus heureux. Cependant, la souffrance donc la souffrance ne peut donc avoir une signification. Il faut alors éviter la souffrance à tout prix ou la minimiser. Dans l'histoire de notre monde, toutes les cultures ont toujours intégré la souffrance à quelque chose qui nous dépassait. Sauf notre société à nous matérialiste, puisqu'on ne veut pas que quelque chose au-dessus de nous. Donc s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de nous, s'il n'y a pas un but plus grand pour nos vies, alors la souffrance, elle sert à rien. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour chercher à l'éliminer. Mais dans l'histoire de l'humanité, on a toujours cherché à répondre à cette question de la souffrance parce qu'elle dépend de quelque chose de plus grand que nous. Mais à partir du moment où on croit qu'il n'y a plus rien, alors la souffrance, effectivement, elle sert à rien. Et c'est ce que Timothy Keller essaie de souligner ici par rapport à cette citation. La Bible nous dit autre chose. Elle nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons des leçons à apprendre au travers de nos tempêtes. Et je peux dire ce matin avec force que Jésus permet la tempête de nos vies afin que nous ayons et que nous entretenions notre relation et notre communion avec lui. Martin Luther dira, puisque Dieu nous enlève tous nos biens, ainsi que notre vie au travers de beaucoup de tribulations, il est impossible pour notre cœur de rester calme et supporter cela, à moins de se cramponner à de meilleurs biens en restant unis à Dieu par la foi. De meilleurs biens. Pour les uns, cette tempête peut leur servir à rencontrer Dieu. Pour bien des personnes, il faut un temps de crise dans la vie pour pouvoir se mettre à chercher Dieu. Vous savez, humainement, chacun de nous aimons avoir le contrôle sur notre vie et nous voulons dépendre de l'aide de personne. Mais quand tous nos repères de vie s'effondrent, quand toutes les choses à laquelle on s'attend s'effondrent, c'est dans ces moments-là parfois que nous commençons à lever la tête et à rechercher Dieu, rechercher l'aide de Dieu. La crise aide les gens à ouvrir leur cœur à Dieu et à être plus attentifs à la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que les uns et les autres pouvons traverser ce matin, mais je crois que Dieu est sur le cœur. Peu importe que nous traversons, Dieu est sur le cœur et Dieu nous aime. Dieu a quelque chose pour nous. Jésus a accepté la souffrance et a donné sa vie pour toi et pour moi à toi. Il est aussi ressuscité pour que nous puissions marcher avec lui et que nous puissions lui faire confiance. Les crises que Jésus permet que tu traverses sont justement là pour te permettre de détourner tes regards de toi-même, afin que tu puisses croiser le regard de Jésus qui t'appelle à le suivre encore aujourd'hui. Jésus veut faire sa douleur en nous. Il veut monter dans la barque de nos vies. Pour ceux qui marchent déjà avec Jésus, c'est la même chose. Jésus veut nous faire grandir dans cette relation de confiance et de dépendance à lui. Car ce que nous voyons dans ce texte, c'est que Jésus n'est pas inquiet face à la tempête, mais il dort. Jésus n'est pas inquiet face à la tempête, mais il dort. C'est notre deuxième point ce matin. Jésus est avec nous dans la tempête. Marc 4, 38, et lui, il dormait en arrière sur le coussin. Face à la crainte d'être emporté par cette tempête, les disciples ont presque oublié que Jésus était avec eux dans la barque. Celui qui a guéri des paralytiques sous leurs yeux, celui qui a chassé des démons sous leurs yeux, les démons même déclarant que celui-ci était le fils de Dieu, ce Jésus-là était avec eux, mais eux étaient paralysés par leur peur et paralysés par leur crainte. Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois d'oublier que Jésus est avec nous? lui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Jésus-là nous fait aussi une promesse, et on le voit dans le livre d'Ésaïe, où le texte, Ésaïe 21, nous dit: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Jésus est avec nous en personne, au travers de son esprit. Vous savez, quand un président de la République ou un ministre dit qu'il va s'occuper de votre affaire personnellement, ça montre tout l'intérêt qu'il porte à notre situation. Quand quelqu'un de vous nous dit: je m'occupe de ta situation. De la même manière, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Et ce que nous traversons, ça intéresse Dieu également. Cessons de croire ce matin, peut-être que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins. Il les connaît et il veut prendre soin de chacune de nos vies. Jésus est dans la barque de ta vie personnelle. Vous savez, il y a un ancien cantique pour enfants qui disait: avec Jésus dans mon bateau, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien faire de la tempête. Vous ne connaissez pas ce chant-là? Il y en a qui l'ont chanté dans les clubs d'enfants. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. C'est une réalité. Si Dieu est avec toi, aucune circonstance ne peut s'opposer à ce projet pour toi. Le fait que Jésus soit dans la barque de nos vies ne nous assure pas une traversée tranquille, mais nous assure une traversée en sécurité. Amen. Le fait que Jésus soit dans la barque de nos vies ne nous assure pas une traversée tranquille, mais nous assure une traversée en sécurité. Jésus est également dans la barque de l'Église. À ce propos, il a déclaré: moi, je dis, en parlant de Pierre, je dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ne nous inquiétons pas, Jésus sait ce qu'il fait avec son Église. Et je veux dire ce matin aussi que Jésus sait ce qu'il fait avec l'Église. Il y a des gens qui croient ça. Jésus sait ce qu'il fait avec l'Église. Il sait ce qu'il fait avec nous localement, il sait ce qu'il fait avec notre pays de France, il sait ce qu'il fait avec l'Europe et avec le monde. Ne laissons pas les circonstances
venir déstabiliser notre confiance.
Je crois que les crises économiques que nous traversons, je crois que les vagues d'attentats, les menaces d'attentats qui planent autour de nous, les afflux de migrants, on voit les nations qui ne savent plus comment gérer, ne sont pas des problèmes, mais c'est une opportunité pour l'Église. Une opportunité de se réveiller, de se tenir sur nos genoux pour prier pour ce monde en souffrance, d'être aussi acteur en aimant les gens par des gestes concrets, aide matérielle, aide soutien psychologique, soutien spirituel. Je crois qu'en agissant comme ça, en dépendant de la grâce de Dieu, nous serons alors spectateurs de cœurs qui s'ouvrent à l'évangile de vie, de situations, de cœurs qui sont transformés, de malades qui sont guéris et des gens qui sont libérés du péché. Je crois que pour nous, c'est une saison d'opportunité. Je crois que c'est une saison d'opportunité. Que ce temps que notre pays, que ce monde traverse, puisse être des temps pour nous tourner vers Jésus. L'Europe et la France, les Européens et les Français croient que leur société matérialiste est puissante et n'a pas besoin de Dieu. Ce temps de crise, de terreur, c'est peut-être une fenêtre qui s'ouvre dans leur cœur et dans le nôtre pour placer Dieu au centre. Je crois qu'il est temps pour l'Église aussi de replacer Dieu au centre de nos priorités. De faire de la recherche de son royaume notre priorité. De voir des vies transformées par la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Jésus sauve, Jésus libère des pécheurs, moi le premier. Il n'est pas venu pour une élite, il est venu pour des gens qui se connaissent sans les boules et qui disent: c'est moi qui ai besoin de ta grâce. C'est le temps où l'évangile peut resplendir dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et troisième point ce matin,
Jésus
est le maître de la tempête. Marc 4, 38 à 41, il se réveille et dit: maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Le vent tomba, il dit à la bancale, puis il leur dit: pourquoi êtes-vous si craintifs?
Comment se fait-il que vous n'avez pas foi ?
Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres : Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Au-delà de leur inquiétude, qui se traduit par cette expression : Cela ne te fait rien que ce monde en train de mourir, nous voyons la puissance de Jésus être manifestée. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Jésus se réveille et calme la tempête. Une seule parole de Jésus et le calme
est rétabli.
Dans ces régions, souvent, les ouragans se calmaient progressivement. Lorsque le Créateur leur en donne l'ordre,
les
éléments naturels se calment d'un coup. L'affliction et l'incapacité des disciples ont été l'occasion pour Jésus de manifester sa puissance. Jésus dira que c'est souvent dans la fournaise ardente qu'on ressent le mieux, la réalité de la présence protectrice de Dieu. Jésus disait aussi que c'est dans l'acier, dans la forge de l'affliction, que se forge l'acier de la grandeur. L'acier de la grandeur se forge dans la fosse de l'affliction. Malgré le fait que ses disciples auraient dû ne pas s'inquiéter, voyant que Jésus était tranquille et calme dans le bateau, soulignant peut-être leur manque de confiance en lui, nous voyons quand même que Jésus fait éclater sa gloire sur les éléments. Il révèle à tous qu'il est Dieu. Jésus a toute autorité sur la nature et sur les éléments. Jésus répond à celui qui crie de désespoir et menace la cause de ses tourments, la cause de ses peines. Je répète encore, je ne sais pas ce que vous traversez. Mais lorsque Jésus élève la voix et menace ce qui vous désempare, l'adversité est enfuie. Les vents de la tempête se calment, les vagues ne pénètrent plus dans la barque de nos vies, au fond de la voix de Jésus. Et je crois que l'affliction et l'incapacité des disciples est encore une leçon pour nous ce matin, mais aussi un encouragement. Laissez-moi vous dire comme ça, ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, c'est l'objet de votre foi. Ce n'est pas la taille de votre foi qui fait la différence, c'est l'objet de la foi. Jésus va faire questionner les disciples sur la raison de leur manque de foi, mais pourquoi avez-vous douté ? Mais cela ne va pas empêcher d'intervenir. La taille de leur foi n'a pas affecté sa décision d'agir pour calmer la tempête. La taille de la foi ne s'est pas mise en opposition de l'intervention de Jésus. Craig Groeschel, qui est un des orateurs du GLS cette année, a dit la chose suivante : notre foi n'est pas basée sur ce que Dieu fait, notre foi est basée sur qui Dieu est. Notre foi n'est pas basée sur ce que Dieu fait, mais sur qui Dieu est. Jésus voulait les faire traverser et il l'a fait. Peut-être que si leur foi avait été plus grande, ils se seraient peut-être juste épargnés du stress et de l'angoisse. Parce que souvent, le stress et l'angoisse n'ajoutent rien, si ce n'est de nous pourrir un peu plus la vie. Mais Dieu est quand même intervenu. Il avait prévu de les amener de l'autre bord. Cette expression-là nous montre que Dieu, que Jésus avait un plan bien précis. Il avait un plan de leur donner du repos, mais il avait une autre mission qui les attendait aussi. Le possédé de Gadara. Mais Dieu avait un plan et il voulait utiliser ses disciples pour atteindre son plan. Il voulait vivre avec eux. Jésus a voulu aller sur la rive orientale de ce lac parce qu'il y avait moins de grandes villes, c'était moins peuplé. Du coup, il voulait pouvoir trouver du repos avant la mission qui les attendait. Et lui aussi avait besoin de repos. C'est aussi ce qui est fort dans ce passage, c'est que dans le même passage, nous voyons l'humanité de Jésus. Qui était fatigué, qui avait besoin de dormir au point même qu'il ne se réveille pas lorsqu'il y a un ouragan. Et en même temps, sa divinité, qui d'un seul mot, le calme revient, la tempête se calme. Cela nous enseigne que nous avons parfois besoin de tant d'épreuves pour découvrir Dieu plus profondément et découvrir son repos. Je crois qu'ils avaient besoin de traverser cette tempête pour découvrir le repos de Dieu, pour découvrir le repos en lui. Vous savez, notre repos,
notre sécurité ne dépendent
pas des circonstances, mais dépendent de sa présence. Notre repos et notre sécurité dépendent de la présence de Jésus dans nos vies. La chose la plus terrible, c'est pas de vivre des tempêtes extérieures, mais c'est de ne pas réaliser qui est avec nous à l'intérieur. C'est la chose la plus terrible. Pas d'affronter les preuves qui peuvent nous s'arrêter, mais de ne pas réaliser que si le maître est là, alors je suis prêt à aller. Si le maître est là, alors je suis prêt à traverser. Si le maître est là, je perds toute ma confiance en lui et je suis. Nous avons une conduite. On va conclure, je vais vous donner une histoire à venir et peut-être pouvoir reprendre sur quel repos. Mais qui que nous soyons ce matin, peu importe où nous sommes dans notre marche avec Dieu, que nous puissions nous approcher de Jésus et lui remettre une tempête entre ses mains avec foi et confiance. Je crois que Jésus est là et prêt, prêt pour nous, prêt de nous pour agir et déverser sa grâce. Et je vais faire quelque chose de symbolique ce matin. Si tu traverses des tempêtes, tu t'invites simplement à être debout. Et dire, Seigneur, cette tempête avec tellement de mauvaises. Dire, Seigneur, cette tempête, je la place entre tes mains.
Seigneur, je te fais confiance. Si tu es dans
au cœur de cette tempête, ça te confie ta tempête à Jésus. Ouvre symboliquement tes mains pour dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu es. Je fais confiance. Je crois en toi. Quelles que soient les circonstances, Jésus en est le Je crois qu'il a prévu ce matin pour nous de nous faire partie de notre vie. Je crois que Jésus a notre vie afin que nous puissions expérimenter son repos. Alors cette autre boxe sera différente pour chacun d'entre nous. Mais la foi, c'est faire confiance en ce qu'il a prévu pour nous. La lettre aux Hébreux contient une liste de héros de foi. Certains d'entre eux ont vécu des prodiges et des miracles dans le même cité, une partie de la liste en disant tout ça ici. Dans la même liste, on voit que des gens ont souffert et n'ont pas obtenu la délivrance sur terre. Mais tous sont appelés héros de la foi, tous ont démontré par leur vie qu'ils s'attendaient à Dieu et à sa délivrance, que ce soit ici-bas ou dans l'éternité. Je finis par ce passage que mon ami David, qui est rejoint la patrie céleste il y a quelques semaines, a prêché quelques mois avant son départ au groupe de jeunes. Et pour moi, c'est ce qui dépeint magistralement ce qu'est la foi. Ce sont les trois propos de trois jeunes hommes qui ont refusé de se prosterner devant un autre Dieu éternel. Passage dans le livre de Daniel. Le passage nous dit notre Dieu, alors que les jeunes gens parlent au roi. Ils disent notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la force des armées. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache quoi que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en l'homme que tu as dressée. La foi est confiante dans la capacité de Dieu à agir. Et tu en remets à lui. Ses promesses pour la mise en place. Pour moi, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de croire en la guérison. La foi, c'est de croire dans le Dieu de la guérison. Quoi qu'il décide, quoi qu'il choisisse, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas
mettre notre foi en action parce qu'on l'a dit,
la Bible nous invite à prier. Mais le problème d'investir que sur la guérison, c'est que quand ça marche pas, les conduits de Dieu, les forces dans celui qui guérit, quand il veut guérir et que ça ne guérit pas, qu'est-ce qui se passe? Soit stupéfiant, soit il n'est pas bon. Et on a pas tout fait à la personne de Dieu. La Bible est équilibrée. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, de marcher derrière la Bible. De s'attendre au Dieu qui nous dit prier sans cesse. De s'attendre à celui qui fait des miracles encore aujourd'hui. Mais de croire aussi qu'il est le Dieu souverain. Et c'est lui qui décide, c'est pas nous. Amen. On va finir par la prière ce matin, c'est de notre merci pour ta parole. Et je te prie vraiment d'encourager, de fortifier ceux et celles qui passent par un temps de tempête ce matin. Et je déclare avec foi ce matin, Père, qu'il y a un autre bord pour chacune de nous. Parce que tu es celui qui est commande de la barque de nous. Et je te prie d'encourager, peut-être ceux et celles qui passent par l'épreuve, qui sont frappés. Je te prie pour ta paix surnaturelle. Je te prie pour ton action divine. Oui, Jésus, tu es encore celui qui guérit aujourd'hui. Tu es celui qui peut changer toutes choses. Mais là où le médecin peut condamner une situation, toi, tu es capable du miracle. Parce que tu es le Dieu du Seigneur. surnaturel. Mais tu es aussi le Dieu qui nous accompagne surnaturellement au travers de preuves qui nous semblent impossibles à vivre humainement. Et je te prie encore d'encourager, de passer dans les rangs par ton esprit ce matin, de fortifier ceux et celles qui sont fatigués. Oui, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons dépendre de toi. Et que toi que tu décides, Seigneur, nous marchons avec toi. Et nous te faisons confiance. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu juste. Et tu es le Dieu véritable. À toi la gloire et la louange de Dieu.
Amen.